Radio Prague, les informations. Bonjour, crise gouvernementale et les ministres des Affaires publiques n'ont finalement pas démissionné ce mercredi. Crise gouvernementale toujours, le Premier ministre est lui favorable à des législatives anticipées si aucun accord n'est trouvé d'ici mardi prochain. Et puis enfin, l'homme d'affaires Tomáš Pitr a été transféré de Suisse en République tchèque. On ouvre donc avec de la politique, la crise gouvernementale, les affaires publiques. Un des trois partis de la coalition ont renoncé à leur intention de remettre les démissions de leurs trois ministres dès ce mercredi. Mardi, la direction des affaires publiques avait pourtant appelé ses ministres à remettre leur démission. Selon le président du parti, Radek Jön, les affaires publiques sont revenues sur leur intention parce que le premier ministre, Petr Nečas, le souhaitait. Mercredi matin, le ministre des Transports, Pavel Dobeš, avait toutefois déjà annoncé qu'il ne démissionnerait pas ce mercredi ni même dans les prochains jours. Si les trois ministres des Affaires publiques venaient toutefois bien à quitter la coalition, cela entraînerait une crise gouvernementale qui pourrait aboutir à la nomination d'un nouveau cabinet ou à l'organisation d'élections législatives anticipées, comme le souhaite notamment la social-démocratie, principal parti de l'opposition. Crise gouvernementale toujours, les affaires publiques conditionnent donc leur prochain soutien au gouvernement à un remaniement ministériel. Ils appellent également le cabinet à revoir l'accord de coalition, à définir de nouvelles priorités et à fusionner certains ministères. Autant de conditions que les deux autres partis de la coalition gouvernementale, le Parti civique démocrate, ODS et Top 09, ont strictement refusé. Ce mercredi, le Premier ministre et leader de l'ODS, Petr Nečas, a toutefois déclaré qu'il était prêt à discuter jusqu'à mardi matin avec les affaires publiques et Top 09 de la poursuite de leur collaboration au sein de la coalition. L'ODS propose une révision du programme du gouvernement et la suppression de trois ministères. Si ces négociations n'aboutissent cependant pas, l'ODS sera alors favorable à l'organisation d'élections législatives anticipées. Le controversé homme d'affaires Tomáš Pitr, détenu en Suisse depuis juillet 2010, a bien été extradé en République tchèque. Le site Lidovky.cz du journal Lidové noviny a publié ce mercredi l'information selon laquelle Tomáš Pitr a quitté la Suisse, accompagné à bord de l'avion de trois policiers tchèques. L'information a été communiquée et confirmée par le porte-parole de la justice helvétique. Récemment, Tomáš Pitr avait retiré sa demande d'asile en Suisse, condamné à plusieurs années de prison par la justice tchèque, notamment pour évasion fiscale et abus de confiance. Tomáš Pitr, un des symboles de l'obscure transition économique post-communiste en République tchèque, avait été arrêté à Saint-Moritz après plus de 3 ans de fuite en juillet 2010. Donc, un nouveau procès, l'attend désormais en République tchèque. On passe à la culture, les prix littéraires tchèques Magnesia Litera, prestigieux prix qui récompense les meilleurs livres de l'année écoulée, sont remis ce mercredi soir au Théâtre National de Prague. 24 ouvrages sélectionnés parmi plus de 350 livres se disputent les prix dans 9 catégories. Michal Havias, Jerzy Kratochwil ou Silva Fischerova figurent parmi les candidats au prix du meilleur roman. Helena Begivinova, qui a traduit en tchèque le roman Suite française de l'écrivaine française d'origine ukrainienne, Irène Nemirovsky, a été nominée quant à elle pour le prix Magnesia Litera dans la catégorie de la meilleure traduction. Une soirée spéciale consacrée à Václav Havel, penseur et homme politique, se tiendra jeudi soir dans les locaux du Centre tchèque à Paris. La soirée débutera par la projection du film documentaire intitulé Václav Havel, du théâtre au pouvoir, en présence du réalisateur Karel Prokop, puis se poursuivra par un débat entre Jacques Hrupnik, politologue, Olivier Mongin, écrivain et directeur de la revue Esprit, et Marc Crépon, philosophe. L'entrée à la soirée est libre. On termine avec un mot de sport et de hockey sur glace. La finale des playoffs de l'Extraliga, le championnat de République tchèque de hockey sur glace, opposera Pardubice à Kometa Brno. En s'imposant 4-2 sur la glace de Liberec mardi soir, Pardubice a remporté la série de sa demi-finale, 4-2. Lundi, dans l'autre demi-finale, Brno s'était déjà qualifié en venant à bout de Plzeň, 4-1. On termine avec un mot de météo. C'est un temps très nuageux accompagné d'averses passagères qui règnent sur une majeure partie du territoire ce jeudi, jour de la fête des Miroslava. Les températures sont en baisse et varient entre 9 et 14 degrés pour la maximale. La grisaille et le froid resteront ensuite de mise durant toute la durée du week-end pascal, quelques chutes de neige étant même possibles. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Qu'a eu le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. Merci également de rester encore quelques instants en notre compagnie pour la suite de notre programme. faits et événements en République tchèque.
Le parti Affaires publiques décide de quitter le cabinet de coalition du Premier ministre Petr Nečas. La chancelière allemande Angela Merkel a visité la capitale tchèque. Ce sont les thèmes de la première partie de notre émission. La suite sera réservée à notre rubrique historique dans le cadre de laquelle Jelka Gisiblova vous invitera au musée technique de la ville de Kopřivnice en Moravie du Nord. Merci de rester avec nous. Bonne écoute. Depuis plusieurs jours, le gouvernement traverse une crise sans précédent qui risque bien de le conduire à sa chute. Embourbé dans une série d'affaires de corruption, le parti de la coalition gouvernementale Affaires publiques a menacé hier, mardi, d'envoyer au Premier ministre la lettre de démission des ministres nommés sous les couleurs du plus jeune parti gouvernemental. Cette démission, si elle avait lieu, conduirait à la tenue d'élections anticipées. Les détails avec Paul Bauer.
Radek Kion, le chef du parti Affaires publiques, a annoncé avec fracas mardi soir la démission rapide des membres du parti de la coalition gouvernementale disposant d'un portefeuille ministériel, un ultimatum lancé au Premier ministre Petr Nečas. On écoute Radek Kion.
La conférence du parti Affaires publiques et le club des députés appellent les ministres nommés sous les couleurs du parti Affaires publiques à déposer sans tarder leur démission.
Pour beaucoup d'observateurs, cette manœuvre participe d'une stratégie de survie du parti dont l'existence est remise en cause en raison du procès pour corruption de l'un de ses membres fondateurs, Vid Barta, et par les écoutes de la députée Christina Kocsi, dans lequel elle aurait appelé à un renouvellement de la tête du parti en accord avec les dirigeants de l'ODS et de Top 09, les deux autres partis de la coalition gouvernementale. Jugeant qu'il s'était sans doute exprimé de manière trop hâtive, Radek Kion a ajouté ce mercredi matin que son parti donnerait au plus tard le 1er mai les lettres de démission aux autres membres de la coalition. Quelques semaines jugées nécessaires selon lui afin de redéfinir l'accord de coalition signé lors des élections de 2010. Sur ces développements, écoutons Michel Perrotino qui est politologue à la faculté des sciences sociales de l'Université Charles.
Effectivement, Vétier-Valéna essaie de démontrer par leur activité qu'ils ne sont pas les seuls en fait, à avoir des problèmes. Et donc ils essayent de mouiller, entre guillemets, les deux autres partis du gouvernement, de manière à permettre d'obtenir un nouveau compromis qui permettrait de continuer. Ce que les autres partis, évidemment, refusent.
La réaction du Premier ministre Petr Nečas à l'ultimatum lancé mardi en fin de journée ne s'est pas fait attendre, déclarant, je cite, qu'à partir du moment où les ministres d'affaires publiques déposeront leur démission, ils fermeront définitivement l'espace de négociation et la poursuite de la coopération entre les trois partis de la coalition. Fin de citation. Dans ce cas de figure, jugé très probable, le Premier ministre a annoncé être prêt à l'éventualité d'élections anticipées. On l'écoute.
V případě, že vývoj povede...
Dans le cas d'un développement de la situation conduisant à la chute du gouvernement, je ne crains pas la tenue d'élections anticipées que je considère comme la posture la plus responsable venant des dirigeants du pays.
Et de conclure toutefois que la tenue d'élections anticipées, si elles avaient lieu, devrait être convoquée le plus rapidement. Même son de cloche de la part du second parti de coalition Top 09 qui, par la voix de son vice-président et ministre des Finances Miroslav Kalousek, souhaite la disparition de la scène publique du parti Affaires publiques.
En aucune circonstance, nous ne laisserons la place au chantage. Les élections anticipées n'apportent rien de bon, mais elles sont néanmoins une issue plus honorable que la prolongation de cette agonie du gouvernement. En outre, elles apporteront quelque chose de positif pour la culture politique de la République tchèque, c'est-à-dire la disparition pour toujours et le plus vite possible d'un objet politique visqueux et dégoûtant comme le parti Affaires publiques.
L'idée d'élection anticipée est un avis partagé par le vice-président du Parti social-démocrate ČSSD, Lubomír Zaolárek, qui a appelé à la réunion des responsables des principaux partis du Parlement afin de définir au plus vite l'agenda des élections législatives. Une réunion des responsables de la coalition gouvernementale est également prévue ce jeudi.
Les relations germano-tchèques sont excellentes, estime la chancelière fédérale allemande Angela Merkel et le premier ministre tchèque Petr Nečas, qui se sont rencontrés ce mardi à Prague. À l'ordre du jour de cette visite officielle qui n'a duré que 5 heures, il y avait cependant aussi des thèmes sur lesquels les deux pays ne s'accordent pas, le pacte fiscal européen et le nucléaire. En refusant de signer le pacte de stabilité et de croissance censé améliorer la discipline budgétaire des États membres de l'Union européenne, la République tchèque a jeté un certain froid dans les rapports germano-tchèques. Autre thème qui risque de devenir une pomme de discorde entre les deux pays, le nucléaire. Tandis que l'Allemagne promet de mettre hors service tous ses réacteurs avant 2022, la République tchèque prépare intensivement l'élargissement de la centrale nucléaire de Temelín. Malgré ces divergences, Angela Merkel s'est montrée à Prague très amicale et diplomatique. Elle a notamment tenu à souligner que l'Allemagne respectait l'attitude de la République tchèque vis-à-vis du pacte de stabilité. La chancelière a également apprécié la politique économique et financière de la Tchéquie, qui s'apprête à remplir dès l'année prochaine le critère de Maastricht, engageant les pays signataires à faire tomber leur déficit budgétaire en dessous de 3%. Elle a entre autres déclaré:
l'Allemagne n'exerce en aucun cas de pression. Ce qui est important pour l'Allemagne, c'est que le pacte fiscal soit signé par les États membres ayant adopté l'euro. Si la République tchèque ne l'a pas signé, elle le signera peut-être plus tard. Ce qui est important, c'est que la République tchèque prend le pacte de stabilité et de croissance extrêmement au sérieux.
Selon le premier ministre Petr Nečas, la Tchéquie remplit les critères du pacte fiscal même sans avoir signé ce document, car la stabilité de la zone euro est aussi dans son intérêt.
Nous reconnaissons aussi que si nous voulons conserver l'union monétaire, elle doit se transformer en union fiscale. Il s'est avéré au cours des dernières années que c'est indispensable et qu'il faudra procéder à une intégration plus profonde des États membres de la zone euro, y compris une meilleure coordination de leurs politiques économiques. C'est tout simplement la réalité politique et économique.
La visite d'Angela Merkel a démontré que ce ne sont pas les problèmes économiques européens, mais la politique énergétique qui pourrait nuire au rapport germano-tchèque. C'était aussi probablement le thème principal discuté par les deux chefs de gouvernement. Les observateurs se demandent d'ailleurs si l'Allemagne dénucléarisée ne protestera pas à l'avenir contre l'existence de Temelín à 50 km de sa frontière. Selon la chancelière allemande, Berlin respecte pourtant la politique nucléaire de Prague et même le projet de construction du nouveau réacteur à Temelín. Elle a constaté à l'issue de son entretien avec Petr Nečas que les deux parties étaient unanimes à estimer que les tests de sécurité des centrales nucléaires européennes devaient être transparents. Le premier ministre tchèque a ajouté que la Tchéquie préparait toute une série d'activités et de débats publics sur ce problème pour rassurer ses voisins. Angela Merkel et Petr Nečas ont été unanimes à rejeter aussi les spéculations de la presse selon lesquelles le oui allemand à Temelín pourrait être dans l'avenir une réponse à la signature tchèque du pacte de stabilité. Angela Merkel a également été reçue par le président Václav Klaus et a participé à un débat avec les étudiants de la faculté de droit de l'université Charles de Prague. Vous êtes toujours sur Radio Prague, émission en langue française. La marque Tatra, l'un des premiers constructeurs automobiles en Europe centrale, a soufflé ses 160 bougies. Retour sur les origines de la légende Tatra, rendue célèbre par le duo d'explorateurs Hanzelka Zygmunt et le rallye Dakar dans cette page d'histoire avec Jarka Gisiblova.
Chapitre de l'histoire.
Pour reconstituer l'histoire de Tatra, il faut remonter à 1850, lorsqu'un atelier de fabrication de véhicules hippomobiles est créé dans le village austro-hongrois de Nesseldorf, nom de l'actuelle ville de Kopřivnice. Lomír Kavalek, le directeur du musée technique de Kopřivnice, qui accueille chaque année près de 90 000 visiteurs.
V roce 1850 Ignác Šustala
En 1850, Ignaz Šustalla, après son retour de Vienne, où il a fait ses études, crée à Kopřivnice une petite fabrique de voitures hippomobiles, carrosses, traîneaux, poussettes et autres véhicules courants à l'époque. Ses produits seront connus au Japon, en Angleterre et ailleurs. En 1896, il rencontre le baron Theodor von Liebig, ami de Karl Benz, inventeur du moteur automobile à essence. C'est le baron Liebig qui va faire de l'entreprise familiale le premier constructeur automobile en Europe centrale. Liebig construit un prototype équipé d'un bicylindre d'origine Benz nommé Président. La vitesse de 82 km/h au volant est extraordinaire pour l'époque. En 1897, Président, en tant que première voiture fabriquée sur notre territoire, bien que dans le cadre de la monarchie austro-hongroise, est présentée à Vienne. C'est ainsi que la construction automobile commence en 1897 à Kopřivnice pour durer, à quelques exceptions près, jusqu'à nos jours.
Tatra exerçait l'activité de constructeur automobile entre 1897 et 1998. Aujourd'hui, l'entreprise se consacre exclusivement à la fabrication de véhicules industriels et de camions, dont la tradition remonte à 1898. Durant les 160 ans d'existence, la marque a également produit des bus et bien d'autres véhicules.
Tatra s'est lancée dans la fabrication de wagons de chemin de fer, de locomotives et, ce qu'on ignore, dans la fabrication d'avions. 35 appareils seront construits entre 1936 et 1939. Tatra, c'est aussi de la technique militaire, des moteurs de tank, des éléments de radar passif. Devant le musée, on expose la locomotive à moteur diesel, Strela, qui a roulé sur les rails de chemin de fer en Slovaquie et qui a été classée monument culturel en 2010. Fabriquée en 1935, Strela a présenté des nouveautés révolutionnaires que le monde va redécouvrir dans les années 1960. Bref, Tatra, c'est le mouvement, la qualité, la tradition.
Takže Tatra rovná se pohyb, rovná se kvalita, rovná se historie.
Dès 1897 apparaît la première auto, la Nesseldorf Président, très semblable à la Benz de l'époque. C'est le début de la commercialisation de l'automobile dans l'Empire austro-hongrois. La première voiture Président a sillonné les routes d'Autriche-Hongrie pendant plus de 30 ans. L'original est exposé au musée technique de Prague, tandis que Kopřivnice, lieu de sa fabrication, possède une réplique depuis 1977. Tous les 10 ans, la voiture refait symboliquement le même trajet entre Kopřivnice et Vienne, en hommage au premier voyage effectué en 1897. En 1906 apparaît le type S. Il est conçu par Hans Ledwinka, un jeune ingénieur allemand surnommé le Monsieur Tatra, qui sera à l'origine de la majorité des véhicules Tatra fabriqués jusque dans les années 1950.
Monsieur Ledwinka fut un constructeur génial, un homme qui a inventé le principe fondamental et caractéristique de Tatra jusqu'à nos jours, à savoir une remarquable aptitude au tout-terrain, ce qu'on appelle le concept Tatra. Ce concept est caractérisé par un châssis à tube central. Les roues sont indépendantes grâce aux demi-essieux oscillants qui supportent bien les inégalités de hauteur et de terrain.
A každá z nich má svůj vlastní život, bez ohledu na to, jakým jede terénem.
La première voiture Tatra réelle est conçue par Hans Ledwinka en 1923. Connue sous le nom de type 11, ce sera la base des modèles Tatra ultérieurs. Quant à la marque Tatra, nom des plus hautes montagnes slovaques, l'entreprise l'a adoptée en 1920, après l'éclatement de l'Autriche-Hongrie à la création de la Tchécoslovaquie. Moteur arrière et ligne avant-gardiste caractérisent la marque dans l'entre-deux-guerres. En 1930 voit le jour Tatra 81, une voiture spacieuse spécialement conçue pour le président Tomáš Garrigue Masaryk. En 1934, Tatra fait sensation en présentant un modèle remarquable, la T-77, une limousine de 5 mètres de long permettant une vitesse de 153 km/h avec une carrosserie construite selon les principes strictement aérodynamiques. En octobre 1936, la T-77 est exposée au Salon de Paris. On écoute Lumír Kavalek.
Pan Ledvinka byl trošku pověrčivý, takže svého času, kdy udělal první.
Par superstition, M. Ledvinka, après avoir construit sa première voiture aérodynamique fabriquée en série, la T-77, a décidé de nommer ses voitures en répétant le chiffre 7. C'est ainsi que ces modèles s'appelleront la T-87, la T-97. Cette pratique est devenue courante chez Tatra. Mais il est vrai que plusieurs voitures importantes d'un point de vue national ont leur propre nom. Ainsi, la première voiture fabriquée sur le territoire tchèque s'appelle Président. Lise ou Barbe Bleue sont des noms donnés aux voitures qui ont représenté notre pays aux rallyes internationaux. Or, d'un point de vue officiel et commercial, il n'est pas bon de donner des noms propres aux modèles de voitures. Une exception qui confirme la règle. Le dernier modèle, la T-158, a été baptisé Tatra Phoenix, du fait sans doute qu'on a souhaité vivement que Tatra, à l'instar de cet oiseau légendaire, déploie ses ailes sur le monde entier.
Pozvedla hlavu jako ten fénix a roztáhla svá krásná průjezdná křídla po celém světě.
Mais revenons encore à l'histoire de la marque. En 1945, Tatra décide de donner une remplaçante à la défunte T-97. Or, Hans Ledvinka est arrêté pour collaboration. Sorti de prison en 1951, il s'installe à Vienne et ne retourna jamais en Tchécoslovaquie. Le nouveau modèle, dit Tatra Plan, finalisé en 1947, disparaîtra prématurément. Tatra travaille sur un nouveau projet, la T-603. Présenté à la foire de Brno, le style de ce modèle se veut moderne et surprenant et sera produit jusqu'en 1975, laissant la place à la nouvelle 613. L'entreprise Tatra est alors le fournisseur quasi exclusif des voitures officielles du gouvernement communiste. Il n'est donc guère étonnant que le passage au capitalisme ait été difficile pour la marque. La production de la 613 cesse en 1996 et depuis 1998, Tatra se consacre entièrement à la production de camions. Le musée de Kopřivnice présente une panoplie de modèles Tatra fabriqués entre 1897 et 1996. Lumír Kavalek s'arrête devant les plus grandes raretés.
Il y a des voitures absolument uniques par leur histoire. Beaucoup se souviendront du duo d'explorateurs Hans Elka Zygmunt qui ont fait le tour du monde au volant de la légendaire Tatra 87. Depuis leur première expédition en Afrique en 1947 jusqu'aux années 1960, le duo s'est rendu dans une centaine de pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. En plus de cela, il y a d'excellents camions tout-terrain qui se sont illustrés à plusieurs reprises au Dakar. Tout le monde connaît sans doute le pilote de camion Karel Loprice, désormais à la retraite, qui a remporté 6 fois le rallye Dakar au volant de Tatra. Parmi d'autres curiosités, la série complète de la Tatra 613, très populaire sous le régime socialiste et au début des années 1990, sans oublier le tout dernier modèle de Tatra avec sa partie arrière restylisée, la Tatra 700, qui disparaît en 1998 après 65 exemplaires produits.
Tatra 700, kterých bylo vyrobeno pouze 65 kusů.
Jirka Gisiblová nous a invités au musée technique de la ville de Kopřivnice et dans l'usine Tatra de la même ville. Merci de votre attention et de votre fidélité à Radio Prague. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos programmes en audio et en texte sur www.radio.cz/fr.